Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vais vous raconter une sorte de contre-champ intime de l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. L'attentat tel qu'il a été vécu par Chloé Verlac, la femme du dessinateur Tinius, histoire que je tire de son livre chez Plomb, « Si tu meurs, je te tue ». Initialement, j'avais prévu de vous raconter cette histoire, évidemment, au moment du triste anniversaire, début janvier. Et puis je me suis dit que c'était trop douloureux. Alors j'ai échangé des mails avec Chloé Verlac, qui sera là tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle assumait et qu'elle tenait à ce que je raconte cette histoire, son histoire. La voici donc, Simon Veil m'a aidé à l'écrire. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le 7 janvier 2015, c'était un mercredi. Le premier mercredi après les vacances de Noël et aussi le premier jour des soldes. Comme tous les mercredis, Tinius s'était réveillé tôt, vers 5 heures. C'était le jour de sa conférence de rédaction à Charlie. Il était dans son bureau en train de finir ses dessins, en retard, comme tous les mercredis. J'ai réveillé les enfants, je les ai habillés, je leur ai préparé le petit déjeuner. Ce matin, c'est lui qui les amène à l'école, comme tous les mercredis. Eh ben moi, quand tu seras parti, ben je crois que je vais me remettre au lit. Et après, je ferai les soldes sur Internet. C'est ça. Et après, tu vas m'expliquer comment tu économises de l'argent alors que tu en dépenses. Sinon, mon amour, tu peux me prendre des slims. Des slims noirs. J'en ai plus. Dire que j'ai récupéré un mec qui mettait des jeans trop larges et des pulls en peau de nounours. Et maintenant, il met des slims super sexy. Ce matin-là, il m'a embrassé longuement. À tout à l'heure! Et il est sorti, avec les enfants. Je suis allé à la porte-fenêtre, on fait toujours ça pour se dire au revoir. On écarte les bras autant qu'on peut pour dire qu'on s'aime, grand comme ça. Il m'a regardé, il m'a souri, il m'a fait un doigt d'honneur en riant, il m'a fait un cœur avec la main, et il m'a envoyé un bisou, et je le lui ai rendu. Il a refermé le portail. C'est marrant, hein? Je lui ai toujours demandé qu'on se dise vraiment bonjour et vraiment au revoir. Je disais, on sait jamais. On sait jamais quoi. C'est la dernière fois que je l'ai vu. À 11h moins le quart, il m'a téléphoné pour une histoire de clé.
Ok. On fait comme ça tout à l'heure, ma princesse. J'y retourne.
C'est la dernière fois que je l'ai entendu. J'ai fait mes achats en ligne. J'espère que le pantalon que je lui ai choisi lui ira bien. Et puis, je vais chercher les enfants à l'école. On va déjeuner tous ensemble. Tinius nous rejoindra après sa réunion. À 11h32, sur le chemin, je reçois un appel de son cousin, Eric. Eric ? Ah, ça fait longtemps, bonne année.
Merci. Chloé, t'as des nouvelles de Tinius? Il y a eu une fusillade à Charlie. J'en sais pas plus, j'arrive pas à le joindre.
J'accuse le coup, mais disons de façon raisonnée. Moi, je pense à une fusillade sur la façade. J'appelle Tinius. Pas de réponse. Je le rappelle, pas de réponse. Je le rappelle encore, pas de réponse. Et là, j'arrive dans la cour de l'école. Oh, Chloé, bonne année. Merci. Mais j'arrive pas à joindre Tinius, il y a eu une fusillade à Charlie. Oh, Chloé, bonne année. Il ne m'écoute pas. Je récupère Solal, il me sourit. Je récupère Sarah Lou à l'école élémentaire, juste à côté. J'appelle encore Tinius. Pas de réponse. Dans la voiture, j'explique aux enfants. Les enfants, il y a eu un accident au travail de papa. J'essaye de l'appeler, hein. J'appelle Charb, pas de réponse. J'appelle Luce, pas de réponse. J'appelle Patrick Pelou, pas de réponse. Et là, je fais le numéro de Coco.
Allô ? Chloé ? Viens vite, je sais pas s'il est encore vivant.
J'explique aux enfants que l'accident de papa est grave, qu'il va falloir que j'y aille. Je les dépose chez une amie. Ah non, Chloé, tu peux pas conduire, hein? Je t'emmène. Et on fonce vers le journal. Dans la voiture, on allume la radio, bien sûr.
On va tout de suite aller en direct sur place. On est en ligne avec Martin Boudot. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste dans une boîte de production.
Et puis Laetitia qui conduit, coupe l'autoradio.
Même locaux que Charlie Hebdo.
Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme, Chloé. Je sais pas. On m'a pas dit qu'il est mort, mais tant qu'on me l'a pas dit officiellement, ben, j'ai espoir qu'il est vivant. À l'approche du boulevard Richard Lenoir, tout est bloqué. Je finis seul à pied. Les abords sont verrouillés par la police. Bonjour. Je suis la femme du dessinateur Tignus. J'ai deux enfants en bas âge. Je veux savoir s'il est vivant. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Non. Non, il a des ordres. Finalement, un policier consent à m'accompagner. Moi, je cours. Lui, marche d'une nonchalance exaspérante. Et à chaque barrage, il faut répéter. Je suis la femme du dessinateur Tignus. J'ai deux enfants en bas âge. Je veux savoir s'il est vivant. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Quand j'arrive aux abords du lieu du drame, c'est le chaos. Des ambulances, des camions de pompiers, des voitures de police, des cars régis, les éclats argentés des couvertures de survie, des ombres, des fourmis. Impossible d'entrer dans Charlie. On me désigne une place, là, à côté d'un camion de pompiers. Reste calme, Chloé. Si tu craques, on va te reléguer dans la catégorie des femmes hystériques. On voudra plus te parler. Alors que si j'ai l'air de me maîtriser, ils me parleront. Ils me diront la vérité. Les minutes se transforment en heures. Et on me dit on ne sait pas. Et moi sur place, j'en sais moins que ceux qui écoutent la radio. Et soudain, dans la cohue, j'aperçois l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka. Je le vois franchir sans problème un cordon de sécurité. Richard ! Richard, ils veulent pas me laisser passer ! Il me fait signe qu'il peut rien faire. Il n'essaye même pas. Je suis furieuse. Et mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Ah, c'est Marie. La fille aînée de Tignus. Elle va me rejoindre. Elle arrive quelques minutes après en scooter. Et après, je sais plus qui nous fait passer, mais il faut encore se battre pour entrer dans le hall du Comédie Bastille, un petit théâtre devenu le quartier général des secours. Je suis la femme du dessinateur Tignus. Je voudrais savoir s'il est vivant ou blessé. Un professeur du SAMU me prend par les épaules. Il me regarde droit dans les yeux. Pour l'instant, on peut pas vous répondre, madame. Et là, une infirmière de la Croix-Rouge, affligée par tant de lâcheté, s'adresse à lui. « Mais dites-le lui, enfin ! Enfin, c'est insupportable ! Il est mort ? C'est ça, répondez-moi, je vous en supplie, il est mort ? Il est mort ?» Il me regarde, mais il ne me répond pas. Et là, je tourne la tête, et dans le fouillis de la salle, j'aperçois Luce, effondrée, qui hoche la tête. Il est mort. Et personne n'a eu le courage de verbaliser. Personne. Cette phrase terrible. Il est mort. C'est moi qui la prononce. Moi seul. Je ne m'entends pas hurler, mais je hurle à mort. Un cri qui me déchire, qui me terrasse. Et je m'effondre sur le sol. Et Marie aussi. Et je vois tout le monde bouger au ralenti. Les bruits sont sourds. Je me suis réfugié dans une bulle. Le théâtre, un semblant d'organisation se met en place. Les gens du théâtre ont installé des tréteaux, ils proposent du thé, des jus de fruits, des gâteaux. Des gens de la protection civile référencent ceux qui sont là. On leur met des étiquettes autour du cou, on leur donne des couvertures de survie. Mais pas à moi. Personne n'est là pour nous accueillir, Marie, la fille de Tignous, son copain Valentin et moi. On ne prend pas nos noms, on ne nous dit pas ce qu'on doit faire. On est dans l'improvisation, l'événement sort des normes. Il nous dépasse tous. Alors, je me pelotonne dans une travée contre le mur. Les tuyaux du chauffage me broient le bas du dos. Ça me fait mal, mais je m'en fous. Tignous est mort. Tignous est mort, c'est irréel. J'appelle mon papa qui habite dans le Berry. Il est mort, papa. Il est mort.
Je sais, ma puce. Je sais, j'arrive, je suis déjà en route avec Catherine. Je t'aime.
Et après, j'appelle ma mère qui a récupéré nos enfants, Solal et Sarah Lou.
Maman, surtout tu ne pleures pas. Il est mort. Tu ne pleures pas, maman, tu ne pleures pas.
D'accord, mon amour, d'accord. Je ne pleure pas, je ne pleure pas, je te promets.
Tu ne leur dis rien, hein? Je leur parlerai en rentrant.
Oui, mon amour, je t'aime.
Dans la salle du Comédie Bastille, Coco, dessinatrice à Charlie qui a survécu, est là, enveloppée dans une couverture de survie dorée. Je m'approche d'elle. Elle est mon lien avec Tignous.
Je suis désolé, Chloé. C'est moi qui ai ouvert la porte. J'ai tapé le code. C'est moi qui ai ouvert la porte.
Je m'entends lui répondre que j'aurais fait la même chose. Parce que je suis bienveillante, parce qu'elle est dévastée, parce que je l'aimais. Même si aujourd'hui... je peux rien lui pardonner. Rien. C'est peut-être pas juste, hein. Mais je ne peux pas. J'ai la langue qui me colle au palais. J'ai la bouche sèche. Une infirmière le remarque. C'est l'effet de l'adrénaline. Attendez, je vais vous donner une bouteille d'eau. C'est le premier petit geste de solidarité. Ça me fait beaucoup de bien. Et là arrive un psychiatre bénévole, Henri, qu'avec Marie on appelle tout de suite Moustache. Il est le premier à venir vers moi, à m'écouter, à me prendre en compte. On parle un peu, je me rappelle plus bien, mais il est direct. Dans ses questions, dans ses réponses, il est direct. Et moi, à cet instant, je pense à me laisser mourir. Et lui, il me secoue, il me dit que je vais vivre. Je ne sais rien de ce qui se passe à l'extérieur. L'arrivée de François Hollande, de Manuel Valls, la traque de deux ou trois tueurs, on hésite encore. Mon événement à moi, c'est l'arrivée de Jeanne, la cadette de Tignous, avec sa mère. Vers 16h, la petite assemblée du théâtre commence à bouger. Il est question de déplacer le QG de crise à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Mais personne ne nous dit rien. On passe sous les radars. Moi, ce que je voudrais, c'est rentrer chez moi. Je voudrais prendre Solal et Sarah Lou dans mes bras. Et dans la salle qui se vide, je tombe sur Patrick Peloux.
Tu devrais aller à l'Hôtel-Dieu, Chloé.
Mais Patrick, il faut que je rentre parler à mes enfants.
Surtout, tu pars pas seul, hein. On va trouver un psychologue pour t'aider à leur parler, hein.
Tu pars pas seul, hein.
Je le lui promets. Et puis dans le mouvement de la salle, je le perds de vue. On suit des gens jusqu'à une cour. Je me souviens plus dans quelle voiture on a finalement embarqué pour l'Hôtel-Dieu. À l'Hôtel-Dieu, je retrouve soulagé Patrick Peloux. Les psychologues et les médecins qui nous reçoivent nous séparent en deux groupes. D'un côté, les rescapés de Charlie, et de l'autre, les proches. Et Marie et moi, on se retrouve avec la fille unique d'Honoré et la compagne de Bernard Maris. Le psy qui nous écoute est d'une incompétence totale. Il est hors sol, presque ridicule, tout à fait inadapté. Avec Marie, on se regarde, on est prise d'un rire nerveux. Heureusement, on retrouve Moustache. Ah, je vous cherchais. Faut qu'on parle, venez. On se met dans un petit bureau. Et il m'écoute pendant une heure. Il est tranchant, presque brutal, mais il m'aide à m'accrocher à la vie. Et en partant, la main sur la porte, il me dit « Je me fais pas de soucis pour vous, hein. Vous allez tenir debout. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un esprit de résilience comme le vôtre. Hein ? C'est parce que vous connaissez pas ma mamie Paula ? C'est ma grand-mère, rescapée des camps. Les mots de Moustache, en tout cas, m'ont sauvé la vie, je crois. C'est une goutte de plomb qui a rétabli l'équilibre. » J'insiste pour que des spécialistes me raccompagnent, comme me l'a conseillé Patrick Peloux. Deux bénévoles de la Croix-Rouge se proposent, et donc nous rejoignons Montreuil. Quand on arrive à Montreuil, il y a bien une centaine de personnes chez nous, dans la maison. Mes parents, des amis, des voisins. Je m'écarte rapidement avec Marie, une des filles de la Croix-Rouge, et Sarah Lou, 9 ans et demi. On se réfugie dans ma chambre. Je veux lui parler, la première. Je sais qu'elle a compris. Elle pleure. Pas longtemps.
Je sais, maman. C'est plutôt à Solal qu'il faut expliquer maintenant.
Marie va donc chercher Solal, 5 ans.
Voilà, mon chéri. Papa a eu un accident très grave. Il va pas se réveiller. Il rentrera pas. Mais il est mort. En fait, c'est comme si il s'était endormi, hein, qu'il allait pas se réveiller. Il est mort. Oui. Il est mort. Bon, ben, il faut que tu te trouves un nouveau mari, alors. Mais un gentil, hein.
Solal ne pleure pas. Il ne pleurera pas pendant au moins 1 an et demi. La colère froide et durable de ce petit garçon est impressionnante. Et puis, il a fallu dormir. Mais dormir où ? Je ne peux pas dormir dans notre lit. Je ne veux plus entrer dans cette pièce. Je me dis... Je vais dormir dans le canapé, là, même pas convertible du salon. Mais Sarah Lou et Solal ont voulu dormir avec moi dans notre lit. Comment leur dire non ? Ils se sont collés à moi. Et je me suis endormi en les écoutant respirer. On a dormi pendant des semaines, en vrac, comme ça, accrochés à ce matelas, comme des naufragés. J'ai compris une chose. Tignous, pour l'instant, ne m'appartient plus. Il appartient à la nation. Le chagrin est collectif. Les gens ont besoin de vivre ce deuil ensemble. Je ne peux pas garder Tignous pour moi. Il faut le partager. Et j'ai donc décidé que ses obsèques seraient publiques. La responsable des pompes funèbres est là, à la maison.
Madame, les délais sont un peu courts, mais vous savez, pour vous, je peux avoir un cercueil en laquais blanc.
Quelle horreur! Je sais pas si j'ai ri, mais moi j'ai une autre idée. Je veux un cercueil en bois, en vrai bois, en bois d'arbre, en chêne même. Brut, sans vernis, pour que les copains puissent dessiner dessus. Tignous disait qu'il dessinait parce qu'il ne savait pas s'exprimer en mots. Alors comment ses amis dessinateurs pourraient-ils lui dire au revoir avec des mots ? Ils vont dessiner sur le cercueil. Ce sera comme était Tignos. Irrévérencieux. Et classe. Les obsèques ont lieu à la mairie de Montreuil, dans la salle des mariages, celle-là même où nous nous sommes mariés. La mairie s'est occupée de tout. Solal ne veut pas venir dans la grande salle. Il passe la tête, il regarde les amis de son père qui dessinent sur le cercueil. Il fait demi-tour. Alors je vais écrire pour lui. Il n'y a pas beaucoup de place parmi les dessins, alors j'écris sur la plaque. Où est gravé son nom? Personne n'a osé le faire. Mais Tignous disait de Solal que c'était un punk. Et puis Sarah Lou arrive, digne et triste. Elle écrit elle-même. Et elle repart. Coco, de l'équipe de Charlie, prononce quelques mots.
Montignous, notre journal va vivre. On continuera sur la même ligne, comme on l'a toujours fait. On se laissera pas emmerder par tous ces cons de tous bords, ces fachos, ces cubénis, et j'en passe. T'avais jamais peur, mon Titi? Rassure-toi, nous non plus.
Moi aussi, je parle. Je n'ai rien préparé.
Toute ma vie de femme, c'est lui. C'est ma plus belle histoire d'amour. C'était un mec merveilleux, un bon mari, un bon amant. C'était un papa extraordinaire. Il a fait de deux familles une seule famille. Je vous aime tous, Marie, Jeanne, Sarah Lou, Solal.
Et après, Christiane Taubira rappelle l'essentiel et cite Paul Éluard.
La lumière partout est tout près de s'éteindre. Mais le printemps est là, qui n'en a pas fini. Dimanche, 4 millions de personnes marchèrent. On a dit que ce fut ce 11 janvier, un jour sans mots, parce qu'il n'y eut pas de discours. Il y avait pourtant ces mots inscrits sur des pancartes. Il y avait ces crayons brandis et promettant tant de dessins et tant de mots. Il y avait sans doute surtout, chez chacun, à chaque pas, ces mots de Paul Éluard encore, qui s'adressaient aux compagnons de Tignous et à Tignous lui-même, pour leur dire « Tu rêvais d'être libre, et je te continue. Tu rêvais d'être libre, et je te continue. »
Je suis heureuse que Tignous reçoive un hommage aussi humaniste, aussi intelligent. Et après, Christophe à l'évêque a chanté.
Aujourd'hui, nous avons un genou à terre, mais l'essentiel, c'est de ne pas avoir les deux. On ne sait jamais, on pourrait se mettre à prier. Elle est pour toi, celle-là. Alors, chantons.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 manina. Mi son svegliato e ho trovato l'invasore, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao.
J'ai voulu savoir comment il était mort. A-t-il eu le temps de penser à nous? A-t-il eu peur? A-t-il dit quelque chose? A-t-il souffert? Combien de balles? Je ne me suis porté partie civile que pour cette unique raison. Je veux avoir accès au rapport d'autopsie. Le procès ne m'intéresse pas, même leur cavale ne m'a pas intéressé. Mon avocat, Antoine Comte, n'a pas voulu pour me protéger que je lise le rapport d'autopsie. Il l'a lu pour moi. Tignous a été abattu d'une balle dans la tête. Entré derrière l'oreille gauche, à bout portant, à moins de 10 cm, une seule et unique balle. Tignous a été exécuté. et il est mort en héros. Il est mort son feutre à la main. Il ne l'a pas lâché. Cette histoire extraite de votre livre, Chloé Verlac, vous comprenez évidemment pourquoi j'ai eu un peu de mal à vous voler les mots, en fait. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi.
Ah mais moi, j'ai pas du tout l'impression que vous me les ayez volés.
Ouf. Ce que je trouvais évidemment intéressant dans votre récit, c'est que ce qu'on nous avait raconté jusque-là, c'était l'histoire de héros français, de héros de la nation, de la liberté d'expression, de la laïcité française, morts sur le front du combat. Et personne ne nous avait raconté le père, le papa, ce que ressent sa femme. Et je suppose que ça doit être très compliqué à gérer, ça, d'être dans l'intimité de quelqu'un qui appartient à la nation.
En fait, tout le problème, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, toute la douleur pour moi, ça a été celle-là de partager le chagrin, puisque finalement la nation était rentrée dans notre intimité par cette porte-là qui était celle du chagrin, et on ne pouvait partager que ça. Et j'avais envie, puisque je n'avais plus d'intimité, de partager tout le reste de l'histoire, parce qu'avant le chagrin, il y avait cette belle histoire d'amour, il y avait d'autres choses à raconter. Et j'avais envie de pouvoir avoir une histoire complète et pas juste la partie la plus triste.
Est-ce que c'est Charlie de raconter l'intimité? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Parce que Charlie, c'est la politique, c'est le combat, c'est l'intimité,
alors,
les sentiments.
Je sais pas ce que ça veut dire, si c'est Charlie ou pas. En tout cas, Tinius disait, mais de toute façon, moi, j'ai pas d'intimité parce qu'elle raconte tout. Donc,
il racontait tout.
Non, je racontais
tout. Vous racontez tout.
Voilà. Donc, ça,
c'est... Donc, il n'y a pas de surprise.
Donc, il n'y a pas tellement de surprise, par rapport à ça. Moi, j'avais envie vraiment aussi parce que je trouve que, malgré tout, c'est une belle histoire parce que je crois qu'aujourd'hui, je vais bien.
Il avait raison, moustache.
Ouais, il avait raison, moustache. Et comme quoi, on peut s'en sortir, on peut décider de continuer à vivre, on peut continuer à vivre et même se dire qu'on va encore être heureux. Et dans cette période un petit peu triste et morose, je trouvais que c'était un joli message aussi de pouvoir raconter cette histoire. Et moi, j'ai publié quand même beaucoup Tinius ces 5 dernières années. Il y a eu 11 publications.
Albums de dessin.
Des albums de dessin. Il y a 9 albums de dessin.
Et c'est vous qui les publiez.
Alors, c'est moi qui les ai faits et ça a été publié par des grandes maisons d'édition. Ouais. Et j'ai rencontré beaucoup de gens pendant ces dédicaces, pendant toutes les conférences que j'ai fait autour de son travail. Et moi, les gens m'ont donné tellement d'amour, tellement de jolies choses. Ils m'ont posé tellement de questions aussi que j'avais envie de leur répondre.
Il y a un moment très intéressant au début, c'est quand vous arrivez sur les lieux de l'attentat, vous avez une réflexion qui m'a, pour le coup, beaucoup amusé. Rien n'est drôle dans cette histoire, sauf ce passage-là, je trouve. Vous dites, si je craque, on va me prendre pour une femme hystérique. C'est marrant que vous pensiez ça à ce moment-là.
Mais parce que c'est complètement, la scène est complètement irréelle. C'est-à-dire que y a des camions de pompiers, de police, des ambulances, des. Je crois que j'ai jamais vu autant de
secours.
De secours. Il y a du monde absolument partout, et je sens bien que tout le monde est dépassé par les événements.
Donc faut pas faire chier, quoi.
Et voilà, et on le sait. On sait que tout d'un coup, si on s'énerve, on le sait. Si on s'énerve, on ne nous répond pas. Ça fonctionne pas. Parce que là, il faut qu'ils gèrent une situation d'urgence, donc ils peuvent pas, en plus, gérer une crise d'hystérie. C'est évident. Et moi, je veux savoir. Je veux absolument savoir, et je veux surtout pas qu'on me mette à l'écart. Pourquoi j'ai cette réflexion? Comment? En fait, il y a... Alors, sur le moment, j'en sais rien, mais c'est tout le travail qui a été fait derrière, avec les psychologues et tout ça. C'est que moi, je suis rentrée tout de suite dans un état d'hypervigilance, d'analyse de la situation, ouais. Parce que ça a été... En fait, un système de défense que j'ai mis en place tout de suite pour m'en sortir.
Il y a ce passage aussi où vous racontez que Richard Malka, qui est donc l'avocat de Charlie Hebdo, franchit des cordons de sécurité. Vous le connaissez très bien, il vous connaît très bien, peut-être qu'il a dîné chez vous, enfin qu'il y a une intimité entre vous, et il vous aide pas à passer, et vous dites que vous lui en voulez toujours. Comment est-ce que vous gérez ça, ces rancœurs que vous conservez? Enfin, peut-être que depuis la publication des livres, vous avez parlé avec Richard depuis, non?
Non. Non, j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui.
Moi, il est perdu aussi. Tout le monde est perdu, personne ne sait quoi faire.
Personne ne sait quoi faire, mais à ce moment-là,
Je l'appelle, il se retourne, je lui dis que je ne peux pas passer et il a simplement haussé les épaules. Il n'y a pas eu un mot, pas un geste, pas assez peu d'humanité en fait. Et moi, j'ai décidé d'être complètement honnête dans l'écriture du livre. Pendant 4 ans, j'ai été parfaite. J'ai été formidable. J'ai tout tenu. Tout. Les enfants, la maison, le travail, les publications, j'étais formidable. Et puis, le livre, l'écriture, ça m'a permis de redevenir à nouveau humaine, de redevenir faillible.
Vous avez droit à vos rancœurs.
Et j'ai le droit de ne pas être parfaite parce que je ne suis pas très fière de ça, au fond.
Je comprends.
C'est absolument pas une fierté. C'est juste que il y a aussi cette dichotomie entre l'intellect et l'affect. Intellectuellement, je sais que c'est pas bien et j'en suis pas fière. Affectivement, je n'arrive pas à le dépasser.
Vous n'êtes pas gauchiste. Je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai le sentiment que c'est un peu tabou tout ça dans l'univers de Charlie. L'affect, l'intimité, c'est des trucs qui collent pas avec l'idée qu'on se fait de tout ça. Et on a l'impression que vous sortez là comme une fleur et vous dites, il y a de l'affect aussi, il y a de l'humanité, il y a des gens, il y a des enfants, il y a des femmes.
Mais Tignous, il était comme ça. Tignous, il était très différent, moi, je trouve, de dans tout ce panel de journalistes, de Charlie aussi. Oui. Tignous, c'était le seul qui avait des enfants en bas âge, une femme, un pavillon en banlieue, des chats, un chien, un crédit sur sa voiture. En fait, Tignous, c'était un mec normal.
Oui.
Moi, je ne fais que prolonger ce qui était notre vie, en fait, et qui ressemble aussi à ce qui était Tignous.
Alors, il y a ce passage très intéressant sur l'incapacité d'un professeur, quand même, du SAMU, à vous dire « il est mort ». Ce sont quand même des gens qui ont l'habitude de faire ça, de dire ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'incompétence? Ou eux aussi sont dépassés, paumés?
Je crois que c'est plus ça. Les gens sont complètement dépassés par l'ampleur de l'événement. Sur le moment, dans les mois qui ont suivi, dans les années qui ont suivi, ça a été très compliqué de nous apporter des réponses. Et aussi, je crois, alors ça c'est ce que j'ai compris
Parce que vous avez essayé de savoir pourquoi il n'était pas arrivé à formuler ces mots.
Alors j'ai pas cherché à le savoir, mais ce que j'ai peut-être compris aussi, c'est qu'ils avaient un petit souci qui était que tant qu'ils n'avaient pas annoncé à la famille tous les décès,
les médias
ne pouvaient pas annoncer les morts officiellement.
Mais c'est vous la famille,
Et c'est voilà. Sauf que à cet instant-là, personne ne veut prendre la responsabilité de le dire, parce que c'est terrible, parce que justement je suis là. Les autres ont été prévenus, parce que c'est beaucoup plus facile, il y a une distance.
Donner un coup de fil.
Voilà.
Que de dire en
face. Et là, il n'y a pas de distance, je suis devant eux.
Alors, il y a aussi donc cette rencontre avec Moustache, dont on a dit un mot tout à l'heure. Ce psychiatre sent une force en vous, de résilience, donc de capacité de rebond. Il est doué parce que vous parlez une heure, dites-vous. Mais vous donnez une piste. Vous dites, c'est parce que vous ne connaissez pas ma grand-mère Paula. Et votre grand-mère Paula, c'est donc une femme qui a survécu au camp de concentration. Et je me disais, est-ce que c'était conscient chez vous qu'au fond, puisqu'elle avait survécu à ça, alors vous deviez survivre à tout?
J'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée parce que ma grand-mère est quelqu'un qui a énormément raconté, il n'y avait pas de tabou. Il fallait raconter pour que l'histoire ne recommence pas, il fallait raconter pour se souvenir, nous étions...
C'est rare.
Oui, c'est
assez rare.
C'est assez rare parce que ça a été très compliqué pour les survivants de pouvoir raconter. Et au contraire, ma grand-mère et mon grand-père d'ailleurs avaient cette volonté de transmettre pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'on sache, et aussi pour que leur mort ne soit pas complètement mort, pour qu'on ne les oublie pas.
Et donc ils vous ont aidé ce jour-là?
Quand il m'a parlé de résilience, j'ai tout de suite pensé à elle. Parce que moi j'ai grandi avec cette idée du prix de la vie, de l'importance que ça avait, et qu'il fallait l'aimer et qu'il fallait se battre pour elle.
Alors, il y a ce moment où Patrick Peloux, qu'on connaît tous, qui est à la fois urgentiste et auteur à Charlie Hebdo et qui est intervenu sur la scène du crime qui venait d'être commis, vous dit « Quand tu rentres à la maison, pour en parler aux enfants, il vaut mieux que tu fasses ça avec un psychologue. » Donc moi, Peloux, il m'aurait dit ça, je l'aurais envoyé bouler. Je suis sûr de ça. Et vous, au contraire, vous vous accrochez à ça et vous rentrez avec 2 bénévoles de la Croix-Rouge à Montreuil et ils sont là quand vous parlez à Sarah Lou et à Solal. Comment est-ce que vous avez la certitude qu'il faut faire ça?
À ce moment-là, j'ai pas beaucoup de certitude. on est...
Vous faites comme il a dit.
Oui, on est vraiment abandonné. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer les barrages. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le théâtre. Personne n'a voulu me parler. Il a fallu que je verbalise. Personne, moi, ne m'a mis d'étiquette autour du cou, donné de couverture de survie. Il a fallu que je m'impose pour rentrer dans une voiture pour aller à l'Hôtel Dieu. On n'est pas pris en compte. Et la seule personne, finalement, à part Moustache, que je connais...
C'est Patrick.
C'est lui qui prend soin de moi. Et il me dit... Promets-moi. Et il est bienveillant, Patrick. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il me veut du bien. Donc je lui promets. Et moi, je suis une femme de devoir, j'ai promis. Donc je vais aller jusqu'au bout.
Il avait raison.
Alors, il avait raison dans la mesure où moi, ça m'a rendue forte parce que j'avais fait comme il a dit. Et donc j'avais tout. Je voulais faire bien. Il fallait que je fasse bien.
Tu fais comme le docteur a dit.
Exactement. Mmh. Par contre, quand je suis arrivée à la maison, j'ai su, en fait, au moment où je passe le portail, eux, ils ont des gilets de couleur, tout ça. Je leur dis, mais enlevez vos gilets, vous vous rendez pas compte, c'est anxiogène pour les enfants. Et je sais à ce moment-là que je vais m'en sortir toute seule et que j'ai pas besoin d'eux. Parce que moi, j'ai pensé à ça et pas eux. Après, quand...
Ils sont là.
Ils étaient très jeunes, ils devaient avoir même pas 25 ans. Une jeune femme et un jeune homme. C'est la jeune femme qui vient avec moi dans la chambre. Et moi, pendant que j'essaye d'expliquer que papa va pas se réveiller de l'accident et que Solal dit « mais il est mort
ouais. »
et que je veux pas répondre à ça, je continue à dire « non, Solal, tu sais, il se réveillera pas. » Et il me re-regarde et il me dit « mais il est mort, il a 5 ans ce petit garçon. » Et là, je l'ai regardé, la psychologue qui m'accompagnait, et elle m'a fait oui de la tête.
Allez-y.
Dites-le, il veut entendre ça.
Donc elle a eu cette utilité-là.
Elle a quand même eu cette utilité-là.
Donc il n'y a pas eu de regret. Vous conseilleriez de le faire ou pas, finalement, parce que peut-être des têtes de mule comme moi ont besoin de bouger là-dessus.
Moi, j'ai pas de conseils en plus à donner en termes de... je souhaite ne pas avoir à donner ce genre de conseils, mais...
Cette médiation...
Je pense qu'il faut pas avoir de regrets, en tout cas. Ça s'est fait comme ça, parce que sûrement qu'à cet instant-là, c'est de ça que j'avais besoin, et il fallait que ça se passe comme ça. Par contre, peut-être le seul conseil, oui, c'est d'écouter les gens qu'on aime.
Le procès de Charlie Hebdo. On a les dates maintenant, ça sera entre le 4 mai et le 10 juillet prochain, ça va être long, hein. Mai, juin, plus de 2 mois de procès. Vous écrivez « ce procès ne m'intéresse pas et je ne me suis constitué partie civile que pour avoir accès au rapport d'autopsie ». Vous avez bougé là-dessus ou c'est toujours le cas ?
Non, j'ai pas tellement bougé depuis le départ. Hein, c'est-à-dire que moi, la traque des assassins.
Tout ça, vous est passé au-dessus.
Ça m'est passé complètement au-dessus. Moi, ma réalité, c'est que Tignous a été assassiné, Tignous est mort et Tignous n'est plus là. Donc, et en plus, les assassins sont morts. Donc, de toute façon, moi, j'ai des réponses politiques, si vous voulez, à cet acte, à cet attentat depuis le départ. J'ai toujours pensé que c'était un attentat politique. Ça m'a permis aussi de me construire et de me défendre par rapport au chagrin.
Là, on va juger des lampistes, c'est-à-dire
mais c'est ça.
On va juger des gens qui ont apporté un dispositif de soutien au commando qui a tué.
Vous savez, ça fait des années que nous, on est consultés par nos avocats, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont arrêtés, mis en examen, relâchés, et à chaque fois, on est consultés pour savoir si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Et évidemment, qu'à chaque fois, on dit oui, parce que c'est le cousin de la tante, du frère, du voisin, de. Enfin bon, c'est.
Mais vous irez ?
Oui, j'irai.
Tous les jours ?
Ah non. Non, j'irai parce que je pense qu'on a aussi, nous, besoin de se retrouver. Hélène Honoré, Philippe Lançon et moi avons le même avocat.
Oui.
C'est aussi un moment qui va être, pour nous, un moment peut-être où on peut se fédérer, on peut se tenir un petit peu chaud. On a besoin aussi de cette humanité-là autour de ce procès. Après, non, j'irai pas.
Et vous n'attendez rien. Ça ne sera pas... On dit souvent que pour faire son deuil, il faut que la justice soit passée. Ça ne va pas le faire.
En tout cas, moi, mon deuil, je l'ai fait, je crois, en écrivant.
J'allais le dire.
Oui.
Si tu meurs, je te tue. De Chloé Verlac, un livre paru aux éditions Plomb que vous trouverez en librairie, puisqu'il est sorti très récemment. Merci beaucoup, Chloé Verlac, de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté que je pose juste ma voix sur vos mots et votre douleur. Merci.
C'est moi qui vous remercie, vraiment.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.